Shalom. C'est vrai, le Seigneur m'a rendu disponible. Permettez-moi de pouvoir le dire parce que il y a quelques petites semaines en arrière, j'ai été sérieusement secoué dans ma santé, mais l'Éternel m'a relevé et je bénis son saint nom. Amen. De même qu'il l'a fait pour moi, il le fait aussi pour chacun d'entre nous, selon les besoins qui sont les nôtres. Nous allons prier. Dieu notre Père, c'est vers toi que nous tournons encore le regard parce que nous savons que celui qui lève le regard vers toi, jamais il ne peut être confus. Jamais, Seigneur, ceux qui espèrent en toi ne seront confus parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu fais tes promesses, Seigneur, c'est sûr, c'est certain ce que tu as dit. Tu vas l'accomplir, tu vas le réaliser. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'accomplir ton projet merveilleux que tu as pour la vie de chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, nous nous tournons encore vers toi. Et nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu apportes la consolation, le réconfort dont nous avons besoin. Parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Bénis ces instants, bénis ton peuple qui est là réuni et fortifie ton serviteur afin qu'il transmette fidèlement ce que toi tu as mis sur son cœur. C'est dans le nom de Jésus ton Fils que nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Qu'il me soit permis de pouvoir dire un mot à l'endroit de notre pasteur Joseph Bondo qui m'a désigné et qui m'a fait confiance afin que je puisse apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu qui est là parce que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel et l'Éternel voudra encore nous rassurer, vous rassurer ce matin qu'il ne vous a pas oublié. Nous allons prendre nos deux premières lectures. Les lectures des bases, la première c'est dans Genèse au chapitre 37 où nous allons lire les cinq premiers versets. Ensuite, nous irons au verset 10 et 11. Ensuite, nous allons lire dans l'épître aux Romains au chapitre 8, un chapitre que certainement chacun d'entre vous vous aimez beaucoup. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup le chapitre 8 de Romains. Nous lisons dans Genèse au chapitre 37, les cinq premiers versets, et puis nous irons à 10 et 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Nous passons au verset 10 et 11. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions ?» Moi, ta mère et tes frères nous prosternaient en terre devant toi. » Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous allons dans Romains au chapitre 8. Nous lisons les 18e verset, ensuite nous allons passer du 28 jusqu'au 39e. J'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 28. Le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans certaines versions, il est écrit, toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a connus, il les a aussi, et ceux qu'il a connus, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son notre Seigneur. Amen. Quelle parole rassurante nous recevons de la part de notre Seigneur. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, je l'ai pris à partir du verset 18 de ce chapitre de Romains, au chapitre 8, donc, où il est dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez, pendant que nous sommes dans cette vie, alors que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il nous arrive de rencontrer des problèmes. Oui, il y a des difficultés qui peuvent venir. Il y a des attentes en nous qui n'ont pas encore trouvé solution, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une réponse du Seigneur. Nous allons donc parler aujourd'hui sur la révélation de la gloire à venir. La révélation de la gloire à venir. Les bien-aimés qui ont chanté tout à l'heure m'ont précédé déjà dans ce sujet. Vous avez constaté que on était déjà en train de parler de la gloire. Nous sommes en train de briller. Et c'est ça que le Seigneur a en réserve pour nous. Il y a une gloire à venir que Dieu nous révèle dans sa parole. La révélation, c'est quoi? C'est le fait d'ôter le voile sur ce qui empêchait les hommes de voir ce que Dieu veut faire. Et c'est Dieu lui-même qui nous donne cette possibilité de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir ou ce qui était caché à nos yeux. En effet, Dieu prend plaisir à faire connaître aux hommes ce qu'ils ignoraient autrefois. C'est ainsi que, par exemple, dans Genèse au chapitre 18, le verset 17, Dieu s'est dit à lui-même, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et nous voyons que plus tard, Joseph, le petit-fils d'Abraham, reçut la révélation que nous avons lue tout à l'heure. Il reçut la révélation de ce qui allait venir dans la suite des temps. C'est vrai qu'il ne comprenait pas tout, mais le Seigneur a commencé à révéler quelque chose. Et nous devons savoir que lorsque Dieu se révèle, il le fait toujours en exigeant notre confiance et notre obéissance.
Et ces réactions de confiance et d'obéissance sont totalement déterminées et contrôlées par le contenu de la révélation. Lorsque donc le Seigneur dit quelque chose, quelle que soit élevée cette chose, qu'elle paraisse difficile à nos yeux, qu'elle semble difficile pour nous, nous savons qu'il va le faire, alors nous prenons aussi une conduite, un comportement qui découle de la promesse qu'il nous a faite. La révélation est donc pour nous une règle de foi et de conduite à suivre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Cela peut déjà influencer la conduite que tu vas avoir. Cela va fortifier aussi ta foi. Il y a quelqu'un qui nous a dit que, au fait, c'est dans un document que je lis là. Il devait voyager pour aller vers une autre ville. Et les personnes auprès de qui il avait travaillé l'ont accompagné jusqu'à la gare. Ils arrivent à la gare, mais lui, il n'avait pas l'argent suffisant pour acheter le billet du train. Alors, lorsqu'on a appelé les passagers, lui aussi, il s'est levé et il a commencé à faire la queue. Pendant que les gens étaient en train d'avancer, lui aussi, il était en train d'avancer, mais n'ayant rien dans ses poches. Il avait cru que l'église où il avait travaillé allait lui remettre de l'argent. Mais il n'avait rien. Mais il est entré quand même dans la file et il était en train d'avancer avec les autres qui étaient en train d'acheter les billets. Et tout d'un coup, il voit la personne qui était devant lui et qui lui dit, « Non, non, j'ai perdu beaucoup de temps ici. » Je ne veux pas faire ces voyages. Il se retourne et il remet l'argent dans la main de ce frère. Il lui dit, prends ça, tu peux prendre ton billet avec ça. Le Seigneur est merveilleux. Si cet homme n'avait pas eu confiance en Dieu, il ne serait pas entré dans la file. Mais là, il est allé parce que la foi, la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur lui a donné une conduite à suivre. Si nous avons bien compris, au regard de la révélation, nous sommes appelés à faire confiance en Dieu, quelle que soit la situation par laquelle nous passons. La révélation de Dieu est une bonne raison pour que toi et moi, nous demeurions fermes dans la foi en Dieu et en sa parole. Quant à la gloire, elle peut être définie comme la renommée brillante, l'éclat des vertus, les qualités, les actions puissantes d'une personne face à une autre personne ou face à d'autres personnes. Dans le Nouveau Testament, la gloire, c'est aussi la réputation d'un homme aux yeux de Dieu et de ses semblables. Rappelons-nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de la gloire de Salomon, c'est dans Matthieu au chapitre 6, le verset 29, il dit « Et Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu, il faisait une comparaison avec les plantes. » Toutefois, c'est la manifestation de la gloire du Seigneur qui passe avant tout. Cette gloire est reflétée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La gloire de Dieu présente en Christ suscite de notre part une réponse d'adoration qui consiste à rendre gloire à Dieu même quand nous n'avons pas encore vu le résultat. Les hommes faits à l'image de Dieu pour refléter sa gloire ont été déchus. Pourquoi? À cause du péché. Cependant, Dieu n'a pas abandonné. Leur foi sera récompensée de gloire et d'honneur sans fin, comme nous le verrons à la fin de cette prédication. Le poids de cette gloire, qui est le destin final lointain du disciple de Jésus, compensera largement les souffrances du monde présent. Telle est la gloire à venir. Alors je vais développer ici en trois points ce sujet. Nous allons voir d'abord le premier point. Dieu a un projet pour les hommes. Tu te demandes parfois, est-ce que moi je vais réussir? Dieu a un projet pour toi. Ensuite, nous verrons le deuxième point, notre état actuel. Et généralement, notre état actuel n'est pas épargné par la douleur. Troisièmement, nous verrons la gloire à venir qui est la ressemblance à Christ. Et ensuite, nous allons conclure. Voyons donc le premier point. Dieu a un projet pour les hommes. Dieu a un projet pour les hommes. Et un projet merveilleux, je peux vous le rassurer, y compris pour toi et pour moi. La Bible nous montre que Dieu nous a connus avant même que nous soyons conçus dans le sein maternel, et même avant la fondation du monde. Vous voyez ça? Des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, le roi David, qui est l'un des ancêtres de Jésus-Christ, avait écrit quelque chose dans le psaume 139. Le psaume 139 au verset 16, écoutez ce qu'il dit. C'est franchement étonnant et surprenant. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existant. Merveilleux, n'est-ce pas? Tu n'existais pas encore, je n'existais pas encore, mais tout le jour qui nous était destiné était déjà devant lui. Il le connaissait. Et lorsque lui, il trace des jours devant nous, rassurons-nous. Nous avons des projets que nous formons nous-mêmes. Il n'y a personne qui vive et qui manque de projets. Et lorsque nous formulons des projets, nous pouvons être très audacieux. Nous pouvons préparer des projets merveilleux pour notre propre vie. Mais je voudrais vous dire que ce que le Seigneur prépare pour toi, ce que le Seigneur prépare pour moi, c'est bien au-delà, c'est bien plus merveilleux que ce que nous-mêmes nous sommes en train de confectionner pour notre vie. Joseph, dont nous avons lu une partie de l'histoire tout à l'heure, il avait reçu la révélation de ce que Dieu allait accomplir dans sa vie. Je pense que vous connaissez très bien ces songes, nous n'allons pas y revenir. Et à cause de cela, ses frères, jaloux de lui, l'ont arrêté et ils l'ont jeté dans un puits. Et quand ils vont le faire sortir de là, ce n'est pas pour le renvoyer vers leur papa. Non, non, c'est pour le vendre comme esclave. La situation ne fait que s'assombrir. Le jeune homme se retrouva en Égypte. Il va être là chez Potiphar, qui va l'employer à son service. Et puis il va en prison, oublié par les chansons à qui il avait fait du bien. Néanmoins, nous constatons quoi? Toutes ces afflictions par lesquelles Joseph était en train de passer se sont avérées des moyens dont l'Éternel s'est servi pour le propulser jusqu'au sommet d'une nation dans laquelle il n'était qu'un étranger. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Nous pouvons penser aussi au peuple d'Israël. Ce peuple qui a été choisi par le Seigneur. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. Le peuple que Dieu a choisi sur la terre pour se révéler, c'est Israël. Que la théologie des remplacements qui entre même dans les églises aujourd'hui ne puisse pas nous faire croire que Dieu a abandonné Israël. Non. Ce n'est pas notre pays qui est devenu le nouvel Israël. Non, la parole de Dieu ne le dit pas. Et cette théologie des remplacements qui a vu le jour en Amérique du Nord prétend que, puisque le peuple d'Israël avait rejeté le Christ et qu'il l'avait fait mourir, que Israël est abandonné et qu'à partir de là, toutes les bénédictions qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est pour l'Église et les malédictions, c'est pour Israël. Ce n'est pas vrai. Même si aujourd'hui nous constatons que la majorité des Israélites ne croient pas en Christ, Dieu est en contrôle de toutes choses. Et nous voyons une merveilleuse parenthèse dans le livre des Romains. Quand vous allez au-delà du chapitre que nous avons lu, à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, le Seigneur montre que l'endurcissement actuel d'Israël, c'est une parenthèse. On l'a ouverte et il va la refermer bientôt. Mais s'il a ouvert cette parenthèse-là, c'est parce que la volonté de Dieu, c'est que nous, qui n'étions pas Israël, nous puissions aussi entrer. Voilà un plan merveilleux que le Seigneur a pour nous. Il n'y a aucune nation sur la terre qui puisse dire qu'elle est délaissée, qu'elle est abandonnée. Non. Le désir du Seigneur, c'est qu'à travers le monde entier, il y ait des personnes qui sont sauvées. Je referme donc cette parenthèse. Le peuple d'Israël, ce peuple choisi, parfois quand nous lisons son histoire, nous nous disons, mais comment est-ce qu'il était en train de se comporter comme ça? À un certain moment de sa vie, le peuple va abandonner l'Éternel. Je ne dis pas qu'il ne priait pas. Je ne dis pas qu'il n'allait pas au temple. Mais plutôt, ils ont associé à Dieu l'idole. J'ai été avec un groupe de jeunes. Ils avaient un slogan qu'ils prononçaient souvent. Ils disaient, 50% en Christ, 50% dans le monde égale 100% dans le monde. Je vais reprendre ça. 50% en Christ, 50% dans le monde égale 100% dans le monde. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que si tu penses que bon, ça je donne à Christ, un peu tout simplement, je suis encore un peu dans le monde. Sache que tu es totalement dans le monde. 99% en Christ, 1% dans le monde, c'est être 100% dans le monde. Ne donnez donc aucune part à l'ennemi. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, je voudrais le dire, vous pouvez prendre toute une bouteille de jus. Il y a un petit espace que l'on a laissé pour que la bouteille ne puisse pas éclater lorsqu'il y a des mouvements. Prenez un liquide d'une rivière quelconque de Kinshasa à l'aide d'une seringue, mettez-la dedans. Vous avez vu lorsqu'on a fait le mélange, qu'on vous donne cette bouteille, vous allez boire? Non. Dieu a besoin que nous puissions être à lui à 100%. Ne gardons rien pour nous, donnons-lui tout ce qui est en nous. Alors ce peuple est allé dans l'idolâtrie. Résultat, puisque Dieu est juste, il va les envoyer en déportation. Israël va partir le premier, puisque la nation a été divisée en deux. Israël s'en va en Assyrie. Mais Juda qui a vu cela n'a pas changé d'attitude. Un siècle plus tard, Juda aussi ira en déportation à Babylone. Mais pendant qu'ils étaient là à Babylone, puisque la mauvaise conduite d'Israël ne pouvait pas changer le plan de Dieu, Dieu leur envoie un message. Un message que nous trouvons dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Pendant qu'ils étaient là en captivité, le Seigneur leur a envoyé ce message qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu promit à son peuple un projet de paix et un avenir plein d'espérance, alors qu'ils étaient en captivité. Et au bout de 70 ans, la déportation de Juda a pris fin. Toutes les nations qui se sont succédées après la Syrie et Babylone, que ce soit les Médo-Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, n'ont pas empêché à Dieu d'atteindre ses objectifs. Le Seigneur savait où il allait. Il savait que en Genèse chapitre 3, verset 15, il avait fait une promesse. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Lorsque l'homme avait péché, Dieu va appeler l'homme dans sa présence. Et quand il s'adresse à Ève, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre le diable et toi, entre le serpent et toi. Ta postérité écrasera la tête du serpent et elle lui blessera le talon. » C'est la grande promesse du salut que Dieu avait en vue. Donc lorsqu'il dit la postérité de la femme, oh vous connaissez l'unique enfant qui est né d'une femme sans l'intervention d'un homme, Jésus-Christ, c'est par lui que la promesse devait être accomplie. Israël a été dévié par l'ennemi afin qu'il abandonne la voie. Mais Dieu est fidèle. Les nations dont je venais de citer le nom ici étaient puissantes militairement parlant. Elles étaient puissantes sur le plan politique, mais elles n'ont pas pu arrêter le projet de Dieu. C'est ainsi que quand nous ouvrons le livre de Matthieu, lorsque le livre de Matthieu commence, nous voyons la généalogie de Jésus-Christ. Arrivé au verset 12, nous allons lire jusqu'au 16e, écoutez ce que la Bible dit. Après la déportation à Babylone, donc malgré tout ce qui s'est passé à Babylone, le Seigneur poursuit toujours son projet. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Vous êtes en train de chercher des noms pour les enfants? En voici quelques-uns. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Elioud, Elioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, le pouls de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il a atteint son objectif. Il a atteint son objectif. Celui par qui il avait fait la promesse à Abraham. Ta postérité. Et lorsqu'on parle de la postérité, il s'agit d'une postérité. Va nous dire l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Ta postérité et non pas tes postérités en ce que il n'y en a qu'une seule, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est par lui que le Seigneur accomplit le projet qu'il a pour toi et qu'il a pour moi. C'est par Jésus-Christ qu'il accomplit cette révélation qu'il est en train de nous donner de la gloire à venir. Nous allons briller à la fin des temps. Nous allons briller d'un éclat inimaginé de la part des hommes. Mais c'est à cause de Jésus-Christ. À travers ces illustrations que je viens de donner et qui ne sont pas limitatives, puisque vous pouvez en trouver plusieurs autres dans la Bible, Dieu a montré que son plan en faveur de son peuple ne faillira jamais. Il en sera de même pour toi et moi. Écoutez, Dieu nous a connus d'avance. Il a planifié notre vie pour sa gloire. D'abord, sa gloire à lui. Ensuite, pour notre salut. Il nous connaît et c'est lui qui nous a amenés à l'existence, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes venus au monde. Il y en a qui pleurent, il y en a qui disent « Je n'ai pas été voulu par mes enfants, mes parents, je n'ai pas été désiré. » Mais je voudrais vous dire que Dieu avait planifié toutes choses. Nous sommes le projet de l'Éternel. Alors, mon frère, ma sœur, relève la tête. Cesse de te lamenter. Au point de dire que tu es la personne la plus malheureuse sur la terre. Il y en a qui disent, nous sommes venus accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Il y a une place pour toi aussi. Par la révélation de la gloire à venir, je voudrais que chacun d'entre nous puisse essuyer les larmes qui ont laissé des traces sur ses joues. Dieu te connaît, même quand tu as l'impression qu'il t'a oublié et qu'il n'a pas donné l'exaucement à tes prières. En accord avec ce projet, l'apôtre Paul a écrit quelque chose qu'il a consigné dans le livre aux Éphésiens pour nous donner encore plus d'assurance. Éphésiens 1, 4, il dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Voilà à quoi Dieu nous a destinés, être saints, c'est-à-dire mis à part pour lui, conformément à sa volonté. C'est alors que nous allons expérimenter la gloire qu'il a promise et qu'il nous révèle. C'est ainsi que nous passons à notre deuxième point, notre état actuel. Notre état actuel, bien-aimé, est tel que nous soupirons en attendant que notre corps connaisse aussi l'adoption que notre esprit a déjà connue. Soupirer, c'est attendre ardemment, c'est rechercher avec passion. Dans l'épître aux Romains toujours, la partie que nous n'avons pas lue, Romains 8, versets 22 et 23, il est dit ceci: jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous le voyons même au travers du réchauffement climatique. Nous le voyons au travers des catastrophes qu'il y a sur la terre. Et au verset 23, il est dit: et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices, les avant-goûts de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les enfants de Dieu peuvent s'estimer heureux parce qu'ils ont l'espérance en Christ, la joie d'être pardonnés et d'avoir part à la gloire de Dieu. Toutefois, étant encore dans la chair, nous vivons dans un monde hostile. Parce que nous appartenons à Christ, ce monde nous impose des adversités. Nous subissons des afflictions, des persécutions, des épreuves, des tribulations, des injustices. Ne sois pas surpris quand ces choses-là arrivent. Nous ne sommes pas épargnés des maladies et des divers problèmes qui arrivent. Il peut arriver que nous puissions même passer par le chômage. Par ailleurs, certaines mêmes fautes que nous avons commises par le passé, bien que pardonnées par le Seigneur Jésus-Christ, ont laissé des cicatrices en nous. Ont laissé des cicatrices chez les autres. Et peuvent même avoir laissé des cicatrices auprès des communautés. Il y a des gens qui commettent des fautes qui sont telles que des communautés tout entières en souffrent. Mais tout ce qui fait aujourd'hui des souffrances morales et même des souffrances physiques dans nos vies, nous savons que nous ne sommes pas, dans toutes ces choses, nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas sans secours. Dans les moments difficiles, nous sommes portés par la grâce de l'Éternel. Nous sommes portés par les prières des autres. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande de prier les uns pour les autres. Nous sommes portés même par les prières anticipatives que nous avons faites autrefois. Dieu ne les a pas oubliées. Tout récemment, quand j'étais malade, parfois il m'était difficile de prier même pendant 5 minutes. Mais la grâce du Seigneur est là. Et du reste, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et là, il fait quoi? Il intercède en notre faveur. Pendant que Joseph était encore esclave, la Bible témoigne, dans l'esclavage s'il vous plaît, que Joseph, c'est dans Genèse chapitre 39, Genèse 39, 4 à 5, il est dit: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur lui et tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit dans les champs. C'est pour dire quoi? Pendant que nous passons des moments difficiles, il n'y a pas que des moments difficiles. Le Seigneur nous donne aussi des éclaircies. Le Seigneur nous donne aussi des moments de rafraîchissement. Et nous pouvons expérimenter à un moment ou à un autre un succès professionnel, une réussite à l'école. Nous pouvons passer à un mariage. Nous pouvons avoir un enfant. Nous avons le pain quotidien. Donc, le moment présent, ce n'est pas seulement la douleur, ce n'est pas seulement les problèmes, mais le Seigneur veut que nous portions les regards sur les choses qui sont en train de marcher, alors nous allons être encouragés. Ne soyons pas de ceux qui font des litanies, des listes de choses qui ne marchent pas dans leur vie, non. Prenons le temps de dire: là, Seigneur, tu as fait quelque chose d'excellent, là, tu as fait quelque chose de merveilleux, alors nous allons être fortifiés dans notre foi. Et la Bible nous dit aussi au verset 26 de Romains 8: l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quel merveilleux intercesseur nous avons! Le Fils de Dieu lui-même, le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors prenons courage, car il y a une gloire à venir. Et le troisième point que nous allons voir rapidement, c'est que la gloire à venir,
c'est la ressemblance à Christ.
Comme je l'ai dit plus haut, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions ressembler à son Fils.
Waouh ! Merveilleux !
Que nous puissions être semblables à son Fils. La Bible nous exhorte à imiter Christ, à suivre son exemple et à devenir semblables à lui. Il s'agit d'un processus qui est déclenché dans notre vie à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu commence à travailler. Il travaille progressivement en nous. Et nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 nous explique un peu, même si nous n'y comprenons pas tout. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Étant en intimité avec Dieu, le Seigneur nous transforme à son image. Comme j'ai dit, c'est un processus progressif, mais qui sera encore partiel tant que nous sommes sur la terre. Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons face à face et nous serons comme lui, il est. On finit, bien-aimé, nous adoptons le caractère et la personnalité de Jésus-Christ notre Seigneur. L'Esprit de Dieu opère en nous les miracles de nous faire ressembler au Fils de Dieu. En attendant, chacun d'entre nous doit y travailler. Nous devons y travailler. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre le processus. C'est à travers l'amour. Quand il lui a été demandé quel est le plus grand commandement, il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous voyez pourquoi j'ai dit que nous ne devons rien laisser à l'ennemi. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement qui soit plus grand que celui-là. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est rechercher en priorité l'intérêt de Dieu. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il est là dans le jardin. Il sait que bientôt il va être arrêté. Il connaît déjà les atrocités qu'il allait subir. Et face à tout cela, la chair réagit. La chair réagit et il demande que le Seigneur lui fasse passer cette coupe. Mais à cause de l'intérêt de Dieu, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Un amour qui mène jusqu'au sacrifice suprême. Dieu mérite que nous puissions l'aimer, quelles que soient les conséquences que cela va apporter dans notre vie. Ça peut vous faire perdre un emploi, ça peut vous faire manquer un avantage, mais marcher dans la fidélité selon le Seigneur Jésus-Christ. Aimer son prochain, c'est l'aimer comme Christ lui-même l'a aimé. Il y a quelques mois en arrière, le pasteur nous a dit, c'est un commandement nouveau. Tu aimeras ton prochain comme moi je vous ai aimé. Cet amour produit le caractère de Christ. Et c'est ce caractère qui a conduit le Seigneur à l'humilité, à savoir s'offrir pour nous. Et nous trouvons le summum de cela dans l'épître aux Philippiens. Lorsque Paul est en train de parler de ce que Jésus-Christ a fait, comment lui qui est le Dieu créateur, comment il s'est rabaissé jusqu'à notre niveau, il dit ceci dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5. Ça, c'est un conseil qu'il nous donne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors écoutez la conséquence, parce que c'est cela que nous allons subir aussi. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, lorsque nous aurons pris ce caractère de Christ, lorsque nous sommes en mesure de nous humilier comme Christ l'a fait, le résultat, c'est la gloire. C'est la gloire, mes chers amis. Daniel nous a encouragés à travers les difficultés que ses compagnons et lui ont connues à Babylone. Ils ont tenu bon. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas dit « Je m'incline devant la statue de Nabucodonosor ». Non, ils ont dit « Nous n'avons que l'Éternel comme Dieu ». Daniel, on a essayé de lui dire d'arrêter de prier. Il a dit « Je continuerai à prier ». Et le Seigneur les a soutenus. Et quand Daniel va terminer son livre, donc au chapitre 12, il dit ceci. Nous allons prendre seulement quelques versets. Les versets 12 et 13, à la maison, vous pouvez lire aussi 1 jusqu'à 3. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. La vie que nous avons sur cette terre, c'est tout simplement quelques dizaines d'années. Mais ce que le Seigneur a préparé pour nous, c'est pour l'éternité. Si nous rencontrons des problèmes aujourd'hui, nous rencontrons des difficultés aujourd'hui, sachons que ce n'est que pour un temps, parce que les choses visibles ne durent qu'un temps. Mais celles qui sont invisibles, elles durent éternellement. En conclusion, Dieu a un projet merveilleux pour tous les hommes, y compris toi et moi. Nous sommes assoiffés, non seulement de connaître ce projet, mais aussi de vivre ce projet. En attendant, nous soupirons et nous passons par des moments tantôt agréables, certes, mais aussi par des moments difficiles qui nous font pleurer. Dieu travaille en nous et il est en train de travailler avec nous en vue de la gloire à venir qui sera manifestée. Il travaille à nous faire ressembler à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il peut arriver qu'à cause de ce que nous vivons, que nous puissions dire, qu'est-ce qui m'arrive alors que je suis enfant de Dieu? Pourquoi Dieu permet-il ceci? Pourquoi Dieu permet-il cela? Il n'y a pas de vie humaine sans douleur. Soyez-en rassurés. Mais Dieu se sert de nos afflictions pour nous tailler et pour nous approcher de son cœur paternel et aimant. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. La révélation de la gloire à venir nous donne une perspective nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle façon de considérer nos relations avec les autres et de considérer nos relations avec Dieu. C'est ainsi que Joseph, alors qu'il a connu des sévices de la part de ses propres frères, il va leur dire ceci dans Genèse chapitre 45, le verset 7 et 8. Il ne leur a pas fait de reproches. Il dit quoi? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Nous sommes prêts à accepter avec confiance le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est pour cela aussi que l'apôtre Paul pouvait dire que même les afflictions, nous les regardons d'une autre façon. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Quant à toi, qui as toujours renvoyé à plus tard la décision de s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es aussi concerné. Il y a ici parmi nous, la plupart, nous connaissons déjà le Seigneur. Mais il y en a qui sont là, qui sont en train de lutter avec le Seigneur. Sache que toi aussi, il t'attend. Le groupe Exo a chanté un cantique où il dit « Jésus t'attend impatiemment. Il ne t'en veut pas. Son sang est là pour te pardonner. Ne tarde plus, cours au salut. Tu peux t'approcher tel que tu es. Jésus t'attend. Alors que nous allons incliner la tête dans la prière, frère, toi qui n'as pas encore pris la décision de te tourner vers le Seigneur, tu peux aujourd'hui entrer dans ces plans que le Seigneur a préparés. Parce que ce plan est déclenché seulement en Jésus-Christ. Tu peux incliner ta tête là où tu es, alors que tu es en train de parler au Seigneur pour demander sa grâce. Commence à le lui dire. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je vais abdiquer. Sur le trône de ta vie, tu ne peux pas être là avec le Seigneur. Il faut que l'un descende. Et c'est toi qui dois descendre. Ce matin, là où tu es, si tu trouves que tu n'as pas l'assurance d'être en Christ, tu peux lever tout simplement la main et je vais prier avec toi. À travers la salle, à travers les hangars, si tu trouves qu'aujourd'hui tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, afin que la gloire à venir soit aussi ta part à toi, tu lèves la main et nous allons prier avec toi. S'il vous plaît, allons-y. Si vous êtes là, levez la main, je ne vous vois pas encore. Alors peut-être il faudra que vous puissiez vous tenir debout. Et nous allons prier ensemble afin que la grâce du Seigneur soit sur vous. Pour que ce projet trouve aussi son accomplissement dans votre vie. S'il n'y a aucune main qui s'élève, toi qui es en pleurs, toi qui es en larmes, aujourd'hui, le Seigneur est capable d'intervenir en ta faveur. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est la stérilité. Je ne sais pas c'est quel problème qui te fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mouiller ton oreiller lorsque tu vas dormir. Mais je voudrais prier afin que le Seigneur te donne un éclairci, te donne un moment de rafraîchissement, alors que nous attendons la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce, toi le Tout-Puissant Dieu, toi qui nous aimes d'un amour incomparable, tu as préparé un plan merveilleux pour nous, tu as un projet merveilleux pour nous, et nous savons Seigneur mon Dieu que rien ni personne ne peut t'empêcher de pouvoir le réaliser. Rien ne peut aller à l'encontre de ton projet à toi. Tu finiras par l'accomplir. Mais en attendant, Seigneur notre Dieu, nous passons par des moments difficiles. Oui, les gens sont en train de pleurer de nuit comme de jour. Et nous nous attendons à toi. Seigneur, étends ta main sur ses frères, sur ses sœurs, sur cette personne qui est en train de soupirer en son cœur, attendant ton intervention en sa faveur. Seigneur Jésus-Christ, viens en notre secours, parce que ce n'est pas pour rien que nous espérons en toi. Ce n'est pas pour rien que nous comptons sur toi. Tu as le pouvoir et la politique, Seigneur mon Dieu, que toi tu peux mener afin de nous sortir de cette situation. Daigne le faire, Seigneur notre Dieu, car nous croyons à toi. Nous espérons en toi. Nous nous attendons à toi. Que toute la gloire et la louange et l'honneur reviennent à toi et à toi seul qui a conçu ce plan et qui l'amène à l'accomplissement. Merci Seigneur Jésus-Christ.